Vous écoutez
RMC.
RMC Sport Show. Sport Show.
Simon Dutin.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le RMC Sport Show, votre rendez-vous quotidien 16h-18h sur RMC. On est ensemble en direct pendant 2 heures pour parcourir une actualité encore riche aujourd'hui. Au programme, dans un instant, la belle entrée en matière du Stade Rennais hier en Ligue Europa Conférence. Cette nouvelle compétition, hier soir, les Rennais ont battu les Norvégiens de Rosenborg. Retour sur cette première encourageante des joueurs de Bruno Genesio. Début ce soir de la 3e journée de Ligue 1, Brest-PSG en ouverture, pas de Messi ni Neymar. Pas de maillot du PSG autorisé non plus autour du stade Francis Leblé. On en parle avec vous, les auditeurs. Xavier Grimaud, Jean Rességuet. Jean Rességuet aux commentaires ce soir pour RMC qui seront également avec nous. Le Mercato, ça s'agite à 10 jours de la clôture. On fera le point avec Florent Germain sur les dernières rumeurs du transfert. Côté marseillais, on parlera des empêtes de Montpellier, des Girondins avec Julien Landry et Nicolas Paolorsi. À 17h, on poursuit notre tour de France des clubs du top 14. Coup de projecteur aujourd'hui sur le rugby club toulonnais qui veut retrouver les sommets du championnat après une dernière saison encourageante. Patrice Colazo sera mon invité. En fin d'émission, comme chaque jour sur RMC, on ira du côté de Tokyo, où la délégation française prépare les Jeux Paralympiques qui démarrent mardi prochain. Sandrine Martinet, la judokate porte-drapeau tricolore, sera notre invitée. Voilà le programme, chargé, encore une fois, le RMC Sport Show, ça démarre tout de suite.
RMC Sport Show.
Et comme hier, pour m'accompagner jusqu'à 18h, j'ai le plaisir d'être entouré par Richard Dourde. Salut Richard.
Salut, comment ça va?
Ah, écoute, moi ça va très bien, je te retourne la question, t'es en forme?
Toujours en forme.
Bon, le programme te plaît, te convient?
Oui, c'est parfait.
Bon, on ne dit pas aux auditeurs que tu as un droit de veto, hein, évidemment, sur nos thèmes, mais tu as trouvé l'idée, évidemment, en amont. Ravi d'être avec toi jusqu'à 18h, on va se régaler encore une fois. Comme le veut la tradition dans ce RMC Sport Show, on commence avec du foot. Avant de parler de Ligue 1, on parle de cette nouvelle compétition, la Ligue Europa Conférence.
La une du RMC Sport Show.
Rennes va plus, faites vos jeux. Le Stade Rennais a parfaitement lancé sa saison européenne hier en battant les Norvégiens de Rosenborg au Roazhon Park. Victoire 2-0 des joueurs de Bruno Genesio. Aguerd et Guirassy sont les buteurs. Un grand Bourigeau à la baguette. Et une première victoire en match officiel cette saison pour les Bretons. On en parle avec Xavier Grimaud qui était au commentaire de cette rencontre pour RMC hier. Salut Xavier.
Bonjour Simon, salut Richard, bonjour à tous.
Salut Xavier.
Xavier, soirée parfaite quasiment pour les Rennais qui va certainement les aider à lancer leur saison en Ligue 1.
Oui, tout à fait. C'est une soirée très importante pour le club parce que ce barrage de Conference League était l'objectif principal du début de saison, se qualifier pour la phase de poule. Le groupe de Bruno Genesio s'était préparé en ce sens, notamment pour être prêt physiquement et dans l'intensité. Et on a vu vraiment sur la première période, notamment sur le début de match, que Rennes avait énormément d'énergie, s'était mis au niveau de la Coupe d'Europe. Tu l'as rappelé à l'image d'un Benjamin Bourigeau qui a été assez, non pas étonnant, mais époustouflant techniquement avec ses deux passes décisives et des gestes de classe durant le match. Voilà, Rosenborg paraît quand même assez faible, on va pas se mentir. Malgré tout, le deuxième but change tout, hein. Il change un peu quand même la donnée du match retour, parce qu'à 1-0, on avait vu une équipe norvégienne assez faible, mais qui semblait jouer un petit peu mieux, donc 1-0 seulement, ça aurait pu amener un petit peu de stress pour le match retour. 2-0, ça semble bien engagé, mais comptez évidemment pas sur Bruno Genesio pour dire que ça y est, les Rennais sont qualifiés. On écoute la réaction du coach Rennais hier soir.
On est à la mi-temps. On a fait ce qu'il fallait, mais le gros danger, ça serait de penser justement que le plus dur est fait, qu'on va se qualifier tranquillement à Rosenborg. C'est une grosse erreur en Coupe d'Europe, plein d'antécédents que je rappellerai aux joueurs et qu'on peut déjà énumérer. Donc c'est bien. Félicitations au groupe, à tous ceux qui ont débuté, à ceux qui sont rentrés, mais méfiance.
La satisfaction de Bruno Genesio, évidemment, content de la partie réalisée par ses joueurs. Hier, supporters rennais, vous faites le 32-16, venez dans le RMC Sport Show, venez nous dire comment vous avez trouvé le match de votre équipe. Est-ce que vous avez été un petit peu rassuré par la prestation de l'équipe bretonne hier? On imagine tout de même qu'il y a eu beaucoup de plaisir du côté des supporters de l'équipe rouge et noir. Xavier, tu restes évidemment avec nous, on va continuer à parler du stade rennais, de cette belle entrée en matière, du mercato qui n'est pas terminé aussi du côté du club breton. Richard, avant ça, c'est vrai qu'on avait beaucoup d'interrogations après les deux matchs nuls du début de saison des Rennais en Ligue 1. C'est vrai qu'on a vu une belle équipe rennaise, Xavier le soulignait, un bon Bourigeau et globalement une belle animation.
Oui, est-ce que cette conférence, elle va pas permettre à Rennes de lancer sa saison? En tout cas, il faut peut-être aussi féliciter Bruno Genesio qui se sert de Guirassy comme un joker buteur de luxe à chaque fois, puisque c'est lui qui a égalisé contre Saint-Etienne la semaine dernière à la 85e, et là c'est lui qui met le but qui va sûrement faire, enfin on espère, hein, on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais qui va peut-être faire la différence sur les deux matchs, quoi, parce que 1-0, ouais, c'est chaud, alors que 2, ben voilà, ça laisse une marge un peu plus importante au Rennais. Alors est-ce que ça va lancer la saison? Est-ce que Rennes va faire la saison que tout le monde espère? Parce que c'est un club, on en a déjà parlé, qui est constamment en reconstruction, ouais, qui a pas mal de moyens et qui est constamment aussi entre la 6e et la 10e place.
Xavier, on l'a souligné, il était attendu, et pas seulement depuis quelques semaines, j'ai envie de dire depuis plusieurs saisons. On a vu un excellent Benjamin Bourigeaud hier à la baguette, qui a magnifiquement conduit le jeu des Rennais, qui a pris de l'épaisseur, hein, par rapport à... Bah, il y a eu des promesses les saisons dernières, mais on a l'impression qu'il a franchi un cap, et c'est finalement quelque part le joueur qu'on attendait depuis plusieurs saisons du côté du Stade Rennais, non?
Oui, il a été le patron, hein, hier, hein. Clairement, il a été le patron physique, comme souvent, hein, c'est un joueur qui a un abattage assez énorme. Il a surtout été le patron technique, remarquable techniquement. Ses deux passes décisives sont vraiment magnifiques. Il y a eu des extérieurs du pied en une touche de balle, des ballons récupérés. C'était une masterclass de Benjamin Bourigeaud. Ce qui est intéressant, c'est que c'est lui finalement qui a le plus d'expérience de la Coupe d'Europe au sein de l'effectif Rennais, quasiment, parce que il a fait les trois campagnes précédentes. C'est la quatrième saison de suite que Rennes est en Coupe d'Europe, et Benjamin Bourigeaud est quasiment le seul ancien, le dernier rescapé du début du renouveau Rennais, avec cette victoire en Coupe de France en 2019 face au Paris Saint-Germain. Il était là aussi en conférence de presse la veille du match. Pourtant, il n'est pas officiellement capitaine, c'est Amari Traoré, mais ça montre que c'est quand même lui le capitaine, l'un des capitaines de cette équipe. Il avait dit, la Coupe d'Europe, ça demande autre chose, un niveau d'intensité autre, de se mettre au niveau autrement, et il le montre sur le terrain. Donc ça va être un guide, avec également à noter hier Baptiste Santamaria, également la recrue, qui a un excellent match pour son premier match avec le Stade Rennais. Il est arrivé il y a deux jours,
mais oui.
Il a énormément rassuré le milieu de terrain, rassuré la défense également. Voilà, donc ce milieu de terrain, Santamaria, Tay, Bourigeaud, en attendant un autre milieu de terrain qui devrait arriver bientôt, ça commence à prendre de l'épaisseur, tout ça, vu le match d'hier.
Richard, c'est un beau joueur, ce Benjamin Bourigeaud. Ça fait plaisir quand même, quand on aime le foot, de le voir confirmer enfin les espoirs qu'on avait placés en lui il y a quelques temps.
C'est un très bon joueur de Ligue 1 maintenant. Il prouve qu'il peut élever son niveau quand la compétition s'élève. Donc c'est vrai que la conférence, c'est peut-être pas la plus belle des Coupes d'Europe, mais c'est quand même un trophée européen. Et puis voilà, il est capable de faire de très très bons matchs à très haut niveau, tant mieux pour lui.
Alors, avant de parler Mercato avec Xavier Grimaud, parce que les supporters rennais se posent de nombreuses questions, y aura-t-il encore des arrivées? On parlait de Santamaria qui, après deux jours, a déjà tenu et fait mieux que tenir ça à sa place hier. On accueille Arthur dans le RMC Sport Show qui a fait le 32-16. Bonjour Arthur, bienvenue sur RMC.
Bonjour messieurs, merci beaucoup.
Arthur, supporter rennais, tu étais au stade hier?
Ouais, j'étais au stade et le retour au stade a été excellent. Pour ma part, j'étais pas allé depuis Rennes-Montpellier 5-1 à l'époque.
Oui, c'était dans une autre vie presque. J'imagine que tu devais être un
sous Julien Stéphan, ça.
Exactement.
Comment t'as trouvé la partie des Rennais? J'imagine que ta patience a été plus que récompensée, du coup.
Oui, alors il y a eu un très bon premier quart d'heure. Après, voilà, on a eu un faux rythme un petit peu avec Rosenborg qui est plus rentré dans son match. Mais j'ai trouvé une partie rassurante de la part des Rennais, parce que c'est la première victoire de la saison tout de même en match officiel. Donc déjà de une, c'est très bien. On a eu des cadres rassurants. Je disais, voilà, Benjamin Bourigeaud, justement, vous en parliez juste avant, qui a fait vraiment un vrai match. Je regardais par curiosité d'ailleurs ce matin. C'est un garçon qui commence à prendre une importance dans la partie histoire rennaise, parce qu'il est quand même à 175 matchs, 31 buts et 27 passes décisives, toutes compétitions confondues. Donc c'est un garçon qui commence à avoir des stats sympathiques dans l'histoire du club. Donc voilà, il a une importance dans le club, ça c'est certain. Amari Traoré aussi, cadre de l'équipe, qui a bien tenu son rôle de capitaine. Donc ça fait plaisir. Ensuite, on a vu une bonne adaptation de Santamaria, qui vraiment a fait un très bon match. Et d'ailleurs, le premier but vient de sa part, une récupération un petit peu rageuse qui va la chercher au bout de la ligne. Donc ça fait très très plaisir de voir ce genre de comportement. Donc c'est rassurant, mais je reste tout de même sur le même avis que Genesio. C'est, on va rester tout de même attentif. 2-0, c'est pas fait, c'est pas un break, hein. 2-0, on va jouer chez eux, tout est possible. Donc il va falloir être humble et surtout être encore plus en réussite devant parce qu'il y a encore des occasions un petit peu gâchées, des phases de jeu un petit peu longue qui permettent pas de concrétiser chaque action, en tout cas de mettre un danger quoi sur le but adverse.
Et tu fais bien peut-être d'être prudent, Arthur. En effet, 2-0, rien n'est fait. Tu peux rester avec nous, Arthur, puisque je sais que le thème du mercato rennais va t'intéresser. Xavier, où en est-on du mercato rennais? On précise que c'est bientôt la clôture, hein, tous les clubs s'activent, Rennes également. Est-ce qu'il y a des pistes? Est-ce qu'on attend d'autres arrivées, d'autres départs? Est-ce que Florian Maurice, le patron du recrutement rennais, j'imagine qu'il doit être très, très occupé en ce moment?
Ah oui, il est bien occupé, ça va être comme ça jusqu'au 31 août. Le mercato rennais, il a déjà été très actif, hein. On va juste vous rappeler que Rennes a recruté Loïc Badé, Kamaldine Soulemana, le jeune Ghanéen, Birger Melling, l'arrière gauche, et donc Baptiste Santa Maria cette semaine qui a joué son premier match hier pour des montants qui sont quand même conséquents, hein. Badé, on parle de 20 millions bonus inclus, Soulemana 15 millions, Melling c'est un peu moins cher, 3 millions, Santa Maria 14 millions. Donc il y a des investissements massifs de la part du Stade Rennais qui a cette chance de par son actionnaire qui a, si ce n'est des moyens illimités, les moyens justement de mettre une belle enveloppe financière pour recruter. Il va y en avoir encore. Baptiste Santamaria était présenté à la presse en début d'après-midi avec Florian Maurice. Il a été évidemment interrogé sur le mercato. Il a confirmé que le jeune gardien turc Dogan Alemdar, 18 ans, devrait signer. Kayserispor, son club en Turquie, a été un petit peu vite en besogne en officialisant la chose. En fait, il y a un accord entre les clubs qui est quasiment bouclé, mais il n'y a pas encore d'accord avec le joueur. Mais ce sont quelques détails, donc il devrait effectivement être rennais cette saison. Il n'a que 18 ans, donc à voir dans la hiérarchie. Il n'a pas fermé la porte, hein, en disant qu'il viendrait pour être soumis à la concurrence. Il n'a pas fermé la porte à ce que ça devienne éventuellement un numéro 1 bis. À voir, il n'a que 18 ans. On le découvrira, lui qui est titulaire depuis une saison et demie avec son club de Kayserispor. Il a également confirmé que Lovro Majer, le croate, jeune milieu offensif du Dinamo Zagreb de 23 ans, était tout proche de signer. Il reste aussi quelques détails à régler. Ça devrait se faire dans les jours à venir. On parle de 15 millions, hein, du côté de la presse croate. Donc c'est encore une belle somme. Lui qui a un milieu offensif apparemment, qui a une belle vision du jeu, donc qui pourrait être intéressant pour alimenter notamment Soulemana et Doku sur les côtés. 159 matchs en Croatie, 40 buts, 50 passes décisives. Donc tout ça peut être alléchant. Lovro Majer, donc international espoir croate. Et on sait que le Stade Rennais cherche éventuellement un défenseur central parce que Jerzino Niamsi était sur le départ, ça a capoté, mais voilà, renforcer la défense c'est également une piste. Il n'y a pas vraiment de noms qui sortent du fait aussi que Naïef Aguerd va faire la CAN cette saison, tout comme Amari Traoré. Donc voilà, il y a encore beaucoup de pistes. En revanche, Florian Maurice a dit que au niveau de l'attaque c'était certainement terminé, l'effectif était assez complet en quantité et en qualité au niveau de l'attaque, donc à moins d'opportunités de dernière minute, ça ne devrait pas bouger de ce côté-là. Côté départ en revanche, là, il y a du dossier. Il y a les lofters, Mbaye Niang, James Lea Siliki, Rafik Guitane qui s'entraîne à part sur le terrain des jeunes. Va falloir trouver des solutions, notamment pour Mbaye Niang qui a un très gros salaire. Et évidemment, comment ne pas finir et citer Eduardo Camavinga, hein. Le dossier n'est toujours pas bouclé. Il a traîné son spleen hier, il a joué 5 minutes sur la pelouse, tête basse. Voilà, on ne le reconnaît pas, le gamin qui époustouflait les supporters rennais il y a encore un an. Aucune offre n'a été reçue pour Camavinga. Voilà ce qu'a dit Florian Maurice au micro d'RMC Sport avant la rencontre hier.
Camavinga qui porte le numéro 10, hein, c'est quand même tout un symbole. Richard, t'es étonné par la tournure qu'a prise la situation de Camavinga du côté du Stade Rennais?
Un petit peu. Après, ça doit être difficile, hein. Il est pas très expérimenté. C'est allé très vite pour lui. En équipe de France à 18 ans, la grande équipe de France. Hein, voilà. Donc il a encore pas mal de chemin à faire. Et c'est dur aussi pour un joueur parce que le joueur se connaît. Hein, la qualité qu'il a, elle a pas disparu en une année. Et de rentrer pour jouer 5 minutes, forcément, on n'est pas forcément très fier puisque on était titulaire à part entière de cette équipe de Rennes. Il était titulaire. Donc ouais, c'est un peu dur. Après, c'est toujours le problème du mercato, le problème du joueur qui a perdu de la valeur, donc qui a perdu de la valeur marchande. Donc est-ce que Rennes veut pas le garder pour essayer de le relancer, le vendre plus cher? Enfin c'est un petit peu plus compliqué.
Qu'il est en fin de contrat, Richard. Il est en fin de contrat.
Ouais, il est en fin de contrat à la fin de l'année, mais ils veulent le prolonger, quoi. C'est ça. C'est
un peu le même cas que Mbappé. Lui et son entourage ne veut pas. Oui, exactement. Voilà, lui et son entourage ne veut pas prolonger. Donc Rennes veut récupérer de l'argent, ce qui paraît évidemment logique, un retour sur investissement. Mais voilà, si les offres ne sont pas là,
compliqué à vivre, donc il fait peut-être tout pour pas rester aussi, quoi. On a vu maintes reprises dans des clubs dans les années précédentes, des conflits, des joueurs qui voulaient plus s'entraîner parce qu'ils voulaient partir, et puis finalement bon voilà, c'est compliqué de garder un joueur contre sa volonté, parce qu'après les rendements sont moins bons et Rennes va tout y perdre.
Arthur, très rapidement, supporter rennais qui a fait le 32-16, je te pose la question. Qu'est-ce qui se dit parmi les supporters rennais? Comment on vit cette situation autour d'Eduardo Camavinga? T'espères encore qu'il va prolonger, qu'il va redevenir un joueur important de cette équipe? Ah ben écoutez, on a perdu Arthur, on n'aura pas la réponse du côté des supporters. Très rapidement Arthur.
Ouais, pardon. Ouais, on espère tous vraiment qu'il redevienne une pièce importante du schéma rennais, ça c'est hyper, ça nous tient tous à cœur, mais les caca nerveux un petit peu de gamin, clairement on a tous un petit peu marre aussi. Pour Rennes, ça nous arrangerait qu'il re-signe un an, parce que d'un côté on peut le vendre après, parce que s'il arrive en fin de contrat, on va tous y perdre. Ça reste tout de même un personnage aimé à Rennes, quelqu'un qui est vraiment adoré, mais il faut qu'il arrête tout ce genre de choses là qui met vraiment le monde, enfin en tout cas qui met l'image des jeunes vraiment en péril, je trouve, et qui est vraiment dommage. On a vu qu'avec Rutter déjà cette année, là si Camavinga nous refait une bise, ça va être compliqué. Faut faire le dos rond. Je pense que voilà, comme vous avez très bien dit, ça allait très vite pour lui, mais il y a des phases où il va être mieux, et des phases où il va être moins bien. Et là aujourd'hui, il doit faire le dos rond tout simplement. Et il doit se mettre en concurrence avec des garçons comme Santa Maria, Bourigeaud, qui sont devant lui aujourd'hui dans la hiérarchie. Et il faut qu'il revienne dedans. Donc, mais j'y crois pour Eduardo Camavinga tout de même.
Encore un petit peu d'espoir donc du côté des supporters rennais. On espère que cet espoir ne sera pas de la naïveté, si tu peux me permettre, Arthur, cette petite distinction. Le RMC Sport Show revient dans un instant. Xavier Grimaud, tu restes avec nous parce que ce soir, ouverture de la troisième journée de Ligue 1, Brest qui reçoit le Paris Saint-Germain. On a pas mal de questions à te poser au plan sportif et puis même au plan administratif. Vous allez tout comprendre dans un instant. Le RMC Sport Show revient dans un instant sur RMC. À tout de suite.
RMC Sport Show. Sport Show. Simon Dutin.
C'est le retour du RMC Sport Show. On est ensemble jusqu'à 18h en compagnie aujourd'hui de Richard Dourt. Tenez, je vous rappelle évidemment qu'à partir de lundi, vous retrouverez Vincent Moscato et toute la bande du Super Moscato Show. Mais pour l'instant, on poursuit ce RMC Sport Show avec de la Ligue 1. C'est l'ouverture de la troisième journée ce soir. Brest-Paris Saint-Germain, 21h ce soir au stade Francis Leblé. Un PSG sans Messi ni Neymar, toujours en phase de reprise, face à une équipe de Brest qui a plutôt réussi son début de championnat. L'équipe désormais entraînée par Michel Derzakarian a tenu en échec le Stade Rennais puis l'Olympique Lyonnais, un partout à chaque fois. Alors pourquoi pas embêter le PSG ce soir? Xavier Grimaud, notre homme du Far West, est toujours avec nous. Xavier, est-ce que le Stade Brestois pense pouvoir enquiquiner le PSG ce soir? Derzakarian va-t-il préparer un plan anti-PSG?
Non, alors officiellement, Michel Derzakarian a dit qu'il n'avait rien préparé de spécial. Il y aura peut-être un retour à une défense à 5, il a laissé planer le doute, mais sinon, il dit qu'il ne faut pas forcément préparer de plan, parce que de toute façon, cette équipe est tellement forte que c'est un peu elle qui décide. Hein. Ou ils veulent jouer ensemble, et dans ce cas-là, ils sont injouables, ou alors ils manquent de concentration, comme ça a pu arriver l'année dernière, et là, on peut les embêter. Alors ce qui éventuellement donne un peu d'optimisme à Michel Derzakarian, c'est que on a vu Étroit et Strasbourg lors des deux premiers matchs du Paris Saint-Germain qui ont été capables de les embêter et de leur marquer des buts. Alors pourquoi pas, surtout qu'il n'y a pas le retour de toutes les stars, même s'il y a quand même, vous en reparlerez tout à l'heure, mais du beau monde qui revient, Marquinhos, Di Maria notamment. Donc voilà, non, à Brest on y croit, en tout cas on a envie d'y croire, avec un stade qui sera plein à craquer, notamment parce que beaucoup de supporters pensaient peut-être voir Messi, et le stade sera plein à craquer, donc il y aura une grosse ambiance pour ce match.
En tout cas Xavier, du côté du marché noir de la billetterie, on s'est un petit peu adapté à la venue du PSG.
Oui, c'est assez impressionnant. Alors bon, faut quand même dire que les Brest-Paris Saint-Germain, ce sont des matchs qui sont d'habitude déjà à guichet fermé, qu'il y ait Messi ou pas Messi, Neymar ou pas Neymar, il y a tellement de stars. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que déjà les billets étaient très chers dès le départ, parce que le Stade Brestois a une nouvelle politique tarifaire qui est assez étonnante, avec des prix dégressifs, à savoir qu'on paye plein pot quand on achète tout de suite sa place, et qu'ensuite les prix baissent en fonction que le match avance. Donc en gros, si vous voulez être sûr d'avoir votre place pour Paris, fallait payer très cher. Donc c'était 50€ la place la moins cher. Pour ceux qui connaissent le stade Francis Leblé, 50€ dans une tribune où il n'y a pas de toit, où on ne voit pas très bien, donc où il y a vraiment zéro confort. Donc c'est des tarifs vraiment exorbitants. Pourtant, tout a été vendu. Et une fois que Messi a signé, sur le marché noir, c'est devenu assez dingue. Il y a des places qui se revendaient sur les sites voilà, que l'on connaît jusqu'à 100, 200, 300 euros. Il y a même un billet en tribune Foucault, la tribune des abonnés, qui était mis en vente à 400€. 400€, imaginez. Donc si le monsieur ou la dame Jérôme qui a acheté le billet 400 euros, pensait voir Messi, j'espère qu'il a réussi à le revendre, ou alors ça va lui faire cher son Brest-Paris. Ça va lui faire cher son Brest-Paris-Saint-Germain. D'ailleurs, ça a un peu agacé, et c'est logique, les supporters brestois qui eux supportent le Stade Brestois, ouais, en disant c'est un abonné qui revend sa place, en s'adressant au club en disant vous avez toutes les coordonnées du monsieur ou de la dame, n'hésitez pas à annuler son abonnement pour la saison. Je sais pas ce que le club fera, et je sais pas surtout si la place a été vendue 400 euros, mais c'est devenu complètement dingue, et c'est certainement, ce sera comme ça partout certainement en France quand Messi jouera.
Eh bien l'abonné ou la personne se qui reconnaît la place se reconnaîtra, elle peut faire le 32-16 pour venir se justifier sur RMC. Vous avez distingué la voix de Jean Rességuet. Voilà, salut Jeannot. Ben oui, bien sûr.
Richard. Salut Jeannot.
On va t'accueillir dans un instant. Enfin, on va parler avec toi du Paris Saint-Germain plus précisément. Jeannot, je précise que Xavier et toi, vous serez aux commentaires ce soir.
Richard,
c'est un peu... c'est à la fois compréhensible et un peu navrant, cette explosion du prix des billets sur le marché noir.
C'est toujours la même chose. Hein. C'est pour tous les gros événements sportifs où il y a plus de demandes que d'offres. Le marché noir, il interagit. Donc, ouais, on peut rien y faire. Et c'est somme toute logique. Parce que... Messi, on va peut-être pas le voir pendant 15 ans en France. Il faut en profiter. Il a signé, je crois, jusqu'en 2023, c'est ça. Donc, il reste 2 ans pour le voir à Brest. Il y a une année qui est déjà assez mort. Donc, ça sera, voilà, c'est l'avantage des grandes stars dans ce sport. Ça fait lever les foules, ça fait déplacer les foules et ça remplit les stades. Et tant mieux que les stades soient pleins parce que ça fait tellement longtemps qu'on les a pas vus. Voilà, je trouve que c'est, alors, c'est navrant, peut-être un petit peu, mais c'est logique.
Alors, petit mea culpa de ma part, parce que j'ai confondu Jean Rességuet et Richard Dourte. Alors, il va falloir que je passe chez l'orthophoniste. J'ai cru que c'est Jeannot qui était intervenu un petit peu avant que ce soit son tour. Toutes mes excuses auprès des auditeurs. Xavier, on sort un peu du terrain, impossible de passer à côté de cette info. On le rappelle, la préfecture du Finistère a interdit l'accès au stade de Brest entre midi et 19h30 à, je cite, toute personne se prévalant de la qualité de supporter du club du PSG, précisant que les maillots du Paris Saint-Germain seront interdit dans le périmètre défini. On marche sur la tête.
Oui, malheureusement, ce sont des arrêtés préfectoraux qui sont assez courants. Donc effectivement, depuis 12 heures, si vous êtes touriste à Brest pour les vacances, vous avez raison, c'est une très belle ville, et que vous avez votre maillot du PSG, bah on peut vous demander de l'enlever. C'est comme ça depuis midi. Alors, pour être honnête, il y avait le même arrêté préfectoral pour le derby face à Rennes la semaine dernière. Ça n'a pas empêché de voir des supporters rennais qui étaient là. Alors, est-ce que c'est pour éviter que les supporters parisiens qui avaient prévu de venir encourager peut-être le retour des stars, notamment Neymar qui ne sera pas là, ou peut-être la venue de Messi de venir peut-être, mais voilà, ce sont toujours des arrêtés qui sont habituels. Je n'ai pas l'info de savoir s'il va y avoir des supporters parisiens dans le parquage. Il y avait des supporters rennais la semaine dernière, ça j'ai pas eu confirmation, donc à voir ce soir comment sera l'ambiance. Le stade sera plein de Brestois, certainement aussi plein de sympathisants parisiens. Bon, l'important c'est que l'ambiance soit bonne autour du stade et dans le stade évidemment.
Merci beaucoup Xavier, on précise qu'on te retrouve au commentaire de cette rencontre avec Jean Rességuet, qu'on va évidemment enfin accueillir dans quelques instants sur RMC. Merci beaucoup et à tout à l'heure sur RMC. Avant d'accueillir Jeannot, Richard, cette décision de la préfecture, tu la comprends? C'est pas un peu là aussi un petit peu incompréhensible?
C'est assez bizarre quand même, hein, parce que c'est montrer que en fait il va y avoir des problèmes, et c'est accentuer le fait de pas avoir les supporters des équipes dans un stade, que c'est pas possible, que c'est obligé que ça se passe mal. Donc voilà, on interdit et l'interdit en France, c'est souvent un signe de contournement, et enfin je sais pas, je trouve ça assez bizarre. Alors est-ce que les supporters parisiens, les ultras sont trop compliqués à gérer? Peut-être, mais bon, il n'y a pas que des ultras dans les supporters parisiens, et il y a des supporters parisiens partout, comme il y a des supporters stéphanois, marseillais, bordelais, qui habitent pas forcément à Paris, à Bordeaux ou à Marseille, mais qui veulent aller voir leur équipe et s'habiller avec le maillot des supporters, de leur équipe, quoi. Je sais pas, en Angleterre on voit pas ça, il me semble pas, aux États-Unis non plus. Voilà, c'est une fierté de porter les couleurs de son club. Alors c'est compliqué maintenant. Si le préfet a pris cette décision, c'est qu'il doit avoir ses raisons.
Et les autorités administratives françaises qui confirme qu'elles ont décidément peur des supporters de football. Brest PSG, c'est ce soir, 21h en ouverture de la troisième journée de Ligue 1, un match où l'on retrouvera, je le disais, Jean Rességuier au commentaire pour RMC, Jeannot, qui a fait le petit crochet par le RMC Sport Show. Je t'ai accueilli un peu en avance, toutes mes excuses, Jean, je t'ai confondu avec Richard Dourde, j'ai cru que tu étais intervenu.
Tu me soupçonnes en fait de pousser la porte, c'est ça en fait.
Exactement, je me suis dit, il a mis le pied dans la porte, il avait envie d'intervenir. Alors là, toutes mes excuses auprès de toi, Jean, d'abord, auprès de Richard et auprès de nos auditeurs.
Dernière fois.
Oui, dernière fois, messieurs, c'est promis. Jeannot, je le rappelais sans surprise, pas de Neymar ni Messi dans le groupe parisien. Quelles sont les autres absences? Y a-t-il des surprises dans le groupe de Mauricio Pochettino?
Bah, il y a surtout le retour du capitaine Marquinhos, le retour de Di Maria, le retour de Verratti, même s'il y a peu de chances qu'il soit titulaire, et la présence de Donnarumma, puisque côté gardien de but, Rico et Le Tellier sont touchés. Donc ça veut dire que Donnarumma, comme l'a précisé hier Pochettino, est prétendant à une place de titulaire, s'il est dans le groupe. En tout cas, c'est ce qu'a laissé entendre le coach parisien. Donc incertitude entre Donnarumma ou Navas pour le poste de gardien de but titulaire ce soir à Brest. Tu l'as dit, pas de Messi, pas de Neymar, on peut rajouter pas de Paredes non plus. Les trois sont en phase de reprise, même si les trois et surtout Messi avec Neymar ont livré une grosse semaine de travail. On parle d'un possible retour déjà dans le groupe à Reims. Ce sera dimanche prochain. Il y a l'absence de Sarabia qui a une petite gêne aux adducteurs, toujours celle de Sergio Ramos touché au mollet, et Bernat, lui, qui est en phase de reprise. Donc voilà, c'est un groupe encore en rodage qui a deux victoires étriquées à Troyes et contre Strasbourg, ou qui s'est rendu le travail plus compliqué que prévu contre les Strasbourgeois lors de la deuxième journée, mais qui est en tête et qui a toujours dans ses rangs un Kylian Mbappé qui avait peut-être été vexé par les sifflets du Parc des Princes samedi dernier, souvenez-vous, et qui a finalement réalisé quand même une grosse partie.
Richard, ça commence à ressembler à une belle grosse équipe côté parisien, même si les deux superstars ne sont toujours pas là.
Ouais, et il faut rajouter Sergio Ramos et Paredes et compagnie. Ouais. Ouais, c'est ouais. On parlait que Michel Derzakarian, il n'avait pas forcément mis un plan anti-PSG, mais c'est peut-être la bonne solution, c'est essayer de, parce que si on le regarde jouer, ben c'est fini quoi. Il faut peut-être jouer son propre jeu, essayer de contrecarrer les velléités de Paris, même si techniquement c'est très compliqué hein. Au rugby ça existe pareil hein. quand on joue le Stade Toulousain ou au niveau international le All Black, si on les regarde jouer, si on les admire, ben on en prend 40 et on s'est pas aperçu de ce qui se passait. Avec le PSG, c'est pareil quoi. Donc voilà, il faut, c'est sûr qu'il manque encore 3-4 très grands joueurs. Ouais, ça fait un bel effectif quand même hein. On est obligé, même si on n'est pas supporter du PSG, quand on aime le foot, ben ça va faire de belles parties quoi.
Et réponse à partir de 21h au stade Francis Leblay. Jeannot, très rapidement avant de te libérer, est-ce qu'on craint cette équipe brestoise dans les rangs parisiens? On disait avec Xavier tout à l'heure, elle a quand même sacrément embêté l'Olympique Lyonnais, le Stade Rennais, qui ne sont pas des
ouais, petites ouais, équipes. Ouais, ouais. Tu peux te faire une phrase bateau, on respecte l'adversaire, bien ben évidemment, oui. ils vont faire attention.
On prend les matchs les uns après les autres.
Ouais, non, mais c'est une équipe, encore une fois, du Paris Saint-Germain qui récupère des joueurs, se met en place petit à petit, et je pense qu'on va voir le vrai visage du PSG après la trêve internationale. Dommage pour les Clermontois, puisque ce sera PSG Clermont au Parc des Princes, avec tout le retour des stars, et qu'on y verra plus clair avec le tirage au sort de la phase de poule de Ligue des Champions qui aura lieu jeudi prochain. Mais c'est une équipe qui est en train de se mettre en place, mais comme l'a dit si bien Xavier Grimaud, elle a eu parfois des ratés la saison dernière, et peut-être que Brest peut en profiter pour au moins les faire douter, comme Troyes avait essayé en ouvrant le score lors de la première journée.
Merci beaucoup Jeannot, on rappelle que tu seras au commentaire justement avec Xavier
Grimaud
de cette rencontre, on suivra ça évidemment sur RMC. Coup d'envoi à 21h, Brest-Paris-Saint-Germain, ouverture de la troisième journée de Ligue 1 au stade Francis Leblay. Merci beaucoup Richard, tu restes évidemment avec moi, on est ensemble jusqu'à 18h. Le RMC Sport Show revient dans un instant, et dans un instant ce sera la rubrique que Richard préfère, comme beaucoup d'entre vous les auditeurs. On va remplir le panier, on va parler Mercato, ça bouge en France et ça bouge aussi à l'étranger. À tout de suite sur RMC.
RMC Sport Show,
Simon Dutin. 16h43, vous êtes bien sur RMC, on est ensemble en direct jusqu'à 18h dans le RMC Sport Show, en compagnie aujourd'hui de Richard Dourde. C'est la page football, évidemment, jusqu'à 17h, on va parler un petit peu Mercato. Eh bien écoutez, on va parler mercato sans le jingle, on va parler du mercato du côté de nos clubs français, avec évidemment tous nos spécialistes, et on commence avec Florent Germain. Vous avez deviné qu'on allait parler du mercato de l'OM. Salut Florent.
Salut Simon, salut à tous.
Florent, bonne nouvelle pour les supporters marseillais. Paul Lirola, et c'est enfin conclu. Est-ce qu'il est à Marseille? On parlait d'une visite médicale aujourd'hui.
Écoute, alors c'est conclu a priori, sauf que voilà, le petit changement de dernière minute, c'est qu'il devait passer sa visite médicale aujourd'hui. On a appris ça hier et on l'a expliqué sur RMC. Sauf que son vol a été annulé et donc son arrivée est retardée. Bon, a priori, j'ai pas d'informations comme quoi il y aurait un souci qui remettra en cause le transfert, hein, mais simplement la visite médicale se fera un petit peu plus tard que prévu. C'est les infos qu'on a, mais voilà, tous les voyants étaient au vert. On le disait d'ailleurs dès hier, hein, ensemble, il n'y avait pas de souci. Simplement, on travaillait sur le paiement qui sera fait à la Fiorentina. C'est un transfert qui va être entre 12 et d'un montant situé entre 12 et 13 millions d'euros. L'OM aimerait le payer en plusieurs fois. Hier soir, assez tard, on était dans le paperwork, là, comme on appelle ça,
la paperasse,
la relecture des contrats, etc. Donc, est-ce qu'il y a eu un petit détail, ces fameux détails qui parfois font coincer et retarder les échéances? C'est possible, en tout cas. Paul Lirola, ce qui est sûr, pour le coup, ce qu'on peut affirmer, c'est qu'il ne pourra pas être qualifié, évidemment, pour le match de dimanche à Nice. De toute façon, même s'il l'avait été, voilà, faut quand même reprendre le pouls de l'entraînement avec Sampaoli, même s'ils se connaissent, etc. Bon. Je l'imaginais pas jouer des dimanches comme ça à l'Alliance Riviera. Mais bon, Lirola, ça va être fait, sauf que il passera sa visite médicale et l'officialisation, tout ça, ça aura lieu un petit peu plus tard.
Richard, ça doit être le soulagement pour les supporters marseillais. Il a été excellent la saison dernière à Marseille, ça a traîné. Ça aurait pu, c'est la preuve que ça aurait pu ne pas se faire. Bonne nouvelle pour les supporters marseillais.
Ouais, c'est une bonne nouvelle. Ils arrivent surtout à faire un bon recrutement d'un joueur que voulait Sampaoli. Donc ouais. Maintenant, je pense que c'est pas terminé. Il faut encore ou dégraisser ou améliorer l'équipe. Et dans les derniers jours du mercato, ça va bouger, je pense, encore un petit peu du côté de Marseille, notamment devant.
Eh ben justement, Florent, si je compte bien, ça fait neuf recrues marseillaises à l'intersaison. On attend encore des recrues. On parlait hier avec toi des départs que l'OM va devoir aussi finaliser pour rembourser un petit peu toutes ces acquisitions.
Oui, alors j'étais à l'entraînement ce matin, il y avait encore sur la pelouse et sous le beau soleil de la commanderie Radonjić, Çalhanoğlu, Camara. À la petite différence, on n'est pas surpris que Camara lui s'entraîne comme si de rien n'était avec les titulaires, enfin il est totalement intégré. Radonjić, Çalhanoğlu, bon, surtout Çalhanoğlu, je trouve, c'est pas qu'il traîne un petit peu les pieds, mais on sent vraiment qu'ils sont en instance de départ. Et d'ailleurs, parenthèse, cette situation, je pense, agace un petit peu Jorge Sampaoli, parce qu'il aimerait que ce soit rapidement plus clair, son effectif en termes de départ et en termes d'arrivée. D'ailleurs, on va pouvoir l'écouter, l'entraîneur de l'OM, puisque il s'est prononcé effectivement sur ces mouvements et cette fin de mercato qui pourrait être agitée. Et lui, il avoue que 4-5 arrivés en plus, c'était au départ l'objectif, même si tout ne sera pas possible. Jorge Sampaoli.
Lo de Paul es una intención que ya viene del fin de temporada anterior.
Concernant Lirola, on a cette intention depuis la fin de la saison dernière. Il a été très bon avec nous, mais son arrivée n'est pas confirmée. Pour Benedetto, ce n'est pas confirmé non plus, mais si c'est le cas, il y a beaucoup de choses à prendre en compte pour savoir quel profil prendre pour le remplacer, notamment concernant le retour de Milik, où il faudra voir avec le médecin. Pour nous, il manque 4 ou 5 joueurs dans l'effectif, et j'espère que la semaine prochaine, on aura un effectif complet.
Quand
on
consolidera le plantel, que je considère que la semaine qui vient.
Il ajoute, parce que sa réponse a été très longue sur ce mercato. Il ajoute, donc il en a parlé, que dans l'absolu, il y aurait 4-5 joueurs en plus qui seraient les bienvenus. Ça dépendra des départs et ça dépendra des finances. Quand il dit 4-5 joueurs, c'est le maximum, mais il est conscient que notamment financièrement, tout sera pas possible. Et puis je vous dis, il a quand même cette notion où c'est pas qu'il y a une urgence, mais il veut que ça se fasse rapidement, parce que là la Ligue 1 commence. Il y a eu déjà ce petit couac de deuxième période contre les Girondins de Bordeaux. Donc moi je l'ai senti désireux d'y voir plus clair, et que ça avance enfin.
et de construire son groupe. Et Flo, autrement d'un doute, le mercato en Angleterre, il continue après la fin d'une autre, c'est ça?
Le mercato en Angleterre,
Il s'arrête en même temps.
Non, il s'arrête. Si c'est pas en même temps, c'est quasiment en même temps.
D'accord, ok.
Il y a peut-être un petit décalage. Faut que je vérifie les dates. Voilà. T'as raison de me poser la question, mais il y a d'autres championnats effectivement à l'étranger, mais pas l'Angleterre où la date n'a rien à voir avec nos dates françaises. Mais
je crois que pour un entraîneur, c'est compliqué. Ça s'arrête. L'Angleterre, on est dans les mêmes. Le 31 août, dans les ligues françaises et anglaises, c'était mis d'accord avant l'Euro.
Mais c'est compliqué pour un entraîneur de construire un groupe alors que et de construire une stratégie, une tactique d'équipe alors que peut-être certains joueurs n'ont pas envie de s'entraîner, certains joueurs vont partir, d'autres savent pas trop où ils en sont. C'est vrai que ça peut agacer et on connaît le tempérament sulfureux de l'entraîneur argentin de l'OM. Donc voilà, je comprends un petit peu aussi son agacement.
Quoi. Oui, en deux secondes, lui il a eu cette phrase en disant une fois que ses départs, donc là Benedetto et Benedetto notamment seront acquis, ce qui est le cas, hein, ça a été officialisé, parenthèse. Il a dit, il faudra aiguiser nos priorités, se mettre autour d'une table pour savoir quelles sont nos urgences. Donc voilà, il veut vraiment y voir très clair, notamment en début de semaine prochaine par rapport à la fin du mercato.
Enfin, 9 arrivés, il en attend encore 4 ou 5, il confirme qu'il est très gourmand niveau mercato, et bon, c'est une habitude qu'il a prise dans tous les clubs où il est passé, on s'y attendait évidemment. Merci beaucoup Flo d'être passé
par le Rapid Sport Show. Merci les amis, et je laisse les copains parler de Delors et de Wang.
Exactement.
Concerne de près ou de loin l'OM.
Exactement, tu l'as annoncé. Nice OM, 20h45 dimanche, c'est le prochain rendez-vous de l'OM, troisième journée de Ligue 1. Et justement, on accueille Julien Landry. Salut Julien.
Salut Simon, salut Richard, pour parler foot aujourd'hui.
Et oui, pour parler foot, après avoir parlé rugby avec toi hier, multicarte, l'immense Julien Landry, il peut tout faire. Julien, évidemment, Flo le sous-entendait un petit peu, tu vas nous parler d'Andy Delors, dont on parlerait du côté de autour de qui on parle d'un départ à Montpellier et peut-être du coup du côté de l'OM.
Exactement. Deux précisions d'abord, Richard. Donc 31 août pour le mercato anglais, 5 septembre pour le mercato russe. Ce qui peut intéresser Montpellier parce que des clubs russes suivraient Andy Delors également et Gaëtan Laborde. Donc voilà, c'est les Russes qui seront un peu en décalé. Donc évidemment, le mercato peut être long, ce qui d'ailleurs agace évidemment Olivier Dalloglio, qui souhaiterait, comme beaucoup d'entraîneurs d'ailleurs de Ligue 1, que le mercato s'arrête au 1er août, que lorsque le championnat reprenne, et ben tous les entraîneurs et leur effectif au complet et qu'ils savent avec quels joueurs ils partent, parce que c'est vrai que ce mercato bizarre où ça n'a quasiment pas bougé pendant 2 mois va s'exciter pendant les 10 derniers jours et on l'a toujours dit depuis le début de la...
Et même le dernier jour
effectivement. Et c'est vrai que du côté de Montpellier, depuis que la saison était terminée, il y avait clairement la possibilité, la porte ouverte en tout cas pour 3 joueurs, Florent Mollet, Gaëtan Laborde et Junior Sambia. Montpellier voulait forcément en vendre un pour renflouer les caisses. Alors Gaëtan Laborde, ça fait 1 an et demi qu'il souhaiterait partir, ou en tout cas qu'il pourrait partir, et il n'y a personne qui vient taper à la porte, en tout cas avec une offre financière intéressante. Et c'est vrai que pendant longtemps, on a seulement cru que ces 3 joueurs-là pouvaient être amenés à un départ. Mais voilà, depuis dimanche, Andy Delors fait face à un assaut de plusieurs clubs français. Nice, alors particulièrement Nice, Marseille, c'est plus particulier parce qu'Andy Delors, s'il y a un club qui l'excite plus que Montpellier, parce que Montpellier ça reste son club, c'est Marseille, et que si Marseille venait taper à la porte avec une proposition, Andy Delors pourrait réfléchir. Pour le moment, il n'y a pas d'offre de la part de Marseille concrètement. Par contre, du côté de Nice, c'est vrai qu'il y a un intérêt très fort de Christophe Galtier pour Andy Delors. Les deux hommes se connaissent parce que Andy Delors est de Sète, Christophe Galtier a de la famille du côté de Sète, ils ont des agents communs, donc il y a une vraie relation qui existe entre eux. Et c'est vrai que l'intérêt de Nice pour Andy Delors, ça le fait réfléchir en tout cas. Et c'est vrai que ça agace un petit peu en interne. Laurent Nicolin n'a pas forcément beaucoup apprécié. Il a déclaré ce matin que si son joueur, le capitaine, aimait le club et il devait rester, s'il quittait le club, c'était de son choix. Et en tout cas, jamais Montpellier ne ferait partir son capitaine. Et évidemment, le sujet est revenu ce matin en conférence de presse au pied d'Olivier Dalloglio, qui n'a pas botté en touche, mais il aurait pu jouer au rugby, Richard, parce qu'il a fait un beau dégagement de ses 22 mètres. Je vous propose de l'écouter.
J'ai envie de perdre personne. Aujourd'hui, Andy, c'est celui qui a le brassard. Ouais, il fait partie des cadres. Pour nous, aujourd'hui, c'est un joueur de Montpellier.
Oui, on comprend qu'il n'ait pas envie de perdre sa star en attaque. Réponse évidemment dans les prochains jours. On précise qu'il reste 10 ou 11 jours.
Comme Pochettino qui parle de Mbappé.
Voilà, exactement. A priori, moi, si je peux le garder, je le garde. Merci beaucoup, Julien.
Merci, messieurs.
Je te libère. Merci d'être passé par le RMC Sport Show. Parce que derrière toi, nous attend Nicolas Paolorsi. Salut, Nicolas.
Salut, les gars. Salut à tout le monde.
Alors Nicolas, on était parti du mercato de l'OM avec une petite idée en tête. Hein. Julien Landry nous a dit que Andy Delors, même s'il n'y a pas de proposition de l'OM, pouvait intéresser Sampaoli. Il y a un joueur du côté des Girondins de Bordeaux qui intéresse, dit-on, l'Olympique de Marseille.
Oui, il fait partie de cette shortlist qui a été dressée par Pablo Longoria pour couvrir ce poste d'attaquant de pointe. C'est le buteur sud-coréen Wang. C'est un joueur qui plaît pas mal à Sampaoli, qui lui a tapé dans l'œil la saison passée. C'est un profil de joueur très actif au pressing qui a mis des buts, hein, il en a mis 12 la saison dernière avec les Girondins de Bordeaux, sauf que le dossier paraît très compliqué. Bordeaux ne va pas le lâcher pour moins de 10 millions d'euros et l'OM essaierait de faire soit un joueur en prêt, soit un petit transfert, une somme pas importante. Les Girondins de Bordeaux sont en position de force, vu que Wang a encore 2 ans de contrat, donc Pablo Longoria a pris la température, pas d'offre officielle, ça va être très compliqué pour Marseille d'aller au bout dans ce dossier-là, même si c'est vrai que c'était un joueur qui plaisait pas mal à Sampaoli.
Nicolas, assez rapidement, je suis désolé, tu passes après tes copains. après la signature de Franck Sergio cette semaine, le Brésilien, les Girondins doivent dégraisser, comme on dit. On en est où du côté des départs?
Ça va se faire. Thomas Bazic devrait rejoindre la Lazio de Rome la semaine prochaine. C'est qu'une question de temps. Il y a un joueur aussi qui intéresse le Milan AC, c'est Yacine Adli. Là, c'est un petit peu plus flou. Mais en tout cas, les Girondins ont des offres. Et il y a surtout des dossiers qui sont bouclés pour les arrivées. Tu parlais du Brésilien Franck Sergio. Il y a également l'attaquant hondurien Albert Ellis qui joue à Boavista, qui arrive à Bordeaux dimanche. Et il y a un jeune milieu offensif brésilien, Vitinho, qui a un bel espoir au Brésil, là aussi, qui va être signé. Pour ça, il faut vendre. Voilà, Bordeaux doit vendre avant de pouvoir acheter ces joueurs-là. Mais tout a été réglé avec l'entourage de ces joueurs-là et les clubs de ces joueurs-là au niveau contractuel pour que ça se finalise assez rapidement dans la semaine.
Ah, les milieux offensifs brésiliens, rien que ça.
Alors,
ça fait rêver les supporters et on en a
surtout
quelques...
à Bordeaux.
Exactement. On en a connu des qui ont laissé des beaux souvenirs aux supporters bordelais. Merci beaucoup, Nicolas, et encore désolé.
Salut, bye bye.
D'avoir été aussi rapidement. Avant de se quitter pour quelques instants, Richard, j'ai pas eu le temps de te faire réagir. On parlait d'Andy Delors ou du Coréen Wang pour l'Olympique de Marseille. Si t'étais supporter de l'OM, tu verrais qui, toi, plutôt en attaque?
Andy Delors.
Eh oui, on a l'impression qu'il est fait, que le rendez-vous est pris un jour ou l'autre.
Caractère, l'abnégation du joueur, ça correspond un petit peu à l'OM.
Et je suis pas loin d'être convaincu que les supporters marseillais sont du même avis que toi. On va se retrouver en quelques instants. Le RMC Sport Show se poursuit. On va donner le coup d'envoi de la seconde période en poursuivant le Tour de France des clubs du top 14 en pleine préparation après Clermont et Toulouse hier. Direction à notre géant de notre championnat. On sera avec Patrice Collazo, le manager du rugby club toulonnais. À tout de suite sur RMC.